Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord de La Route Inconnue, votre magazine de poésie vivante, un magazine bimensuel réalisé en partenariat, je vous le rappelle, avec l'excellente revue Décharge. En seconde partie d'émission, bien comme d'habitude, vous retrouverez les chroniques de Claude Verset, Patrick Jockel et Cécile Guivarch. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'interviewer quelqu'un qui a plein de talents. Elle s'appelle Christine Zetounian-Bellous. Elle est à la fois bien poète, illustratrice, dessinatrice et traductrice. C'est en partie en qualité de traductrice que je la reçois aujourd'hui, puisque Christine, vous avez traduit du russe le livre « Rien qu'une collision de mots » d'Ivan Akhmetiev, publié ces temps-ci aux éditions RS Collection Poepsi. C'est un poète que je ne connaissais pas du tout, Ivan Akhmetiev. J'ose dire, mais vous allez sûrement me détromper, que je ne le trouve pas très russe, finalement. En tout cas, il ne ressemblait pas à ce que je connais de la poésie russe.
Ivan Akhmetiev est effectivement un poète qui est très différent de ce à quoi on peut s'attendre d'un poète russe. Oui. Et il a toujours été à part. Ceci dit, il fait partie de tout un groupe de poètes minimalistes. Mais les poètes minimalistes sont assez peu nombreux en Russie et assez marginaux. Le parcours d'Ivan Akhmetiev est assez typique à certains points de vue, puisque c'était un poète qui faisait partie de l'underground, qui n'était pas publié à l'époque soviétique, qui fréquentait beaucoup les cercles du samizdat. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le samizdat.
Pas du tout, vous allez me dire.
Ça veut dire l'auto-édition, en fait. C'est des gens qui s'auto-éditaient.
Ouais.
Mais même dans ce cercle du samizdat, il était un peu à part, par son style.
Par son style,
mais ouais. En même temps, je pense qu'il est très russe, parce qu'avec cette façon de dire très très peu de choses en deux mots, et tout ce qu'il y a derrière, tous les sous-entendus, et en même temps la paresse un peu, puisqu'il dit que finalement ce sont des fragments de ceux qui n'ont pas le courage d'écrire.
Ouais.
Il y a un poème qui dit ça. Et donc ça, c'est une tradition très russe.
Ouais.
De ne pas avoir le courage d'écrire quelque chose. D'écrire quelque chose.
Ouais. Alors, attention, le courage, il en a, hein. Il l'a démontré au cours de sa vie, parce qu'il a un parcours tout à fait étonnant. Il a fréquenté les milieux dissidents à une époque où c'était très dangereux, ce qui lui a valu d'être interné, hein. Vous pouvez nous confirmer ça.
Oui, effectivement, il a été interné en institut psychiatrique, ce qui était malheureusement l'une des mesures prises à l'encontre des dissidents. Il a un parcours assez typique d'un poète dissident, puisque donc il a fait des études de physique, et c'est un physicien au départ, et puis il écrit depuis l'adolescence, et puis à un moment il a voulu se consacrer vraiment à l'écriture, et il s'est intéressé de plus en plus au poète de l'underground, il a fait partie de la poésie de l'underground. Et donc, il a tout plaqué et il a exercé un peu tous les métiers. Il a été ouvrier, chauffagiste, boulanger, et Dieu sait quoi encore.
Ouais.
Et donc, il raconte qu'en fait, que l'année charnière de sa vie, c'est l'année 1974.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1974
D'abord, il écrit encore, donc il écrit donc depuis l'adolescence. Il m'a dit que le premier poème qu'il aimait, c'est un poème qu'il a écrit à l'âge de 16 ans. C'était tout à fait d'ailleurs dans son style, puisque ce poème, c'est « Dans mon âme, un enfant et un vieillard, le vieillard veut la paix, l'enfant de la tendresse ». Donc déjà à 16 ans, il avait son style.
Il avait son style, effectivement, hein, oui.
Et donc, dans les années 70, il a lu les poèmes de Vsevolod Nekrasov. Alors, c'était également diffusé en samizdat. Vsevolod Nekrasov, c'est le pape du minimalisme russe. Donc c'est un poète qui est né en 1934 et qui est mort en 2009. Et la lecture de Vsevolod Nekrasov a été assez décisive.
Ouais.
Et donc il a pris la décision donc de vraiment de se consacrer à l'écriture et de se réfugier un peu dans le milieu de la dissidence et du samizdat. Et il a écrit un poème en 1974 qui reflète cette décision, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Ce poème est dans le recueil, c'est car nous sommes pareils à l'arbre qui pousse à travers l'asphalte, son tronc conserve la forme de sa brèche, il ne nous appartient pas de briser les murs de béton, simplement de grandir. Et il a décidé de grandir dans la poésie, et donc de grandir hors de la poésie officielle, hors de la vie officielle. À cette même époque, il s'est inscrit dans une file d'attente pour acheter une machine à écrire, parce qu'à l'époque soviétique, il fallait faire des mois et des mois d'attente pour obtenir une machine à écrire. Oui. Et donc quand il a déposé cette demande, il était encore physicien, et quand il l'a enfin obtenue, il était boulanger. Et à partir du moment où il a réussi à avoir cette machine à écrire, il s'est mis à faire des petits recueils pour ses amis et à diffuser sa poésie en samizdat. Oui. Bien sûr, c'était assez mal vu des autorités. Oui. Et d'ailleurs, même dans les samizdat, il était un peu à part, puisque la poésie minimaliste était assez mal comprise de ses collègues écrivains dissidents. Uh-huh.
Il avait peu de rapports donc avec les écrivains qu'on connaît comme Solzhenitsyn, etc. Je suppose que d'ailleurs Solzhenitsyn était peut-être déjà avait déjà quitté peut-être la
Russie. Oui, c'était déjà. Mais c'était d'autres cercles, c'était des cercles plutôt poétiques.
Poétiques, oui. Ouais.
C'était les cercles de la poésie dissidente. Il y avait un club qui se réunissait. Ils discutaient les poèmes des uns et des autres, ils diffusaient leurs textes en samizdat.
Ouais. Alors, ce qui caractérise donc, effectivement, c'est la forme courte. Je me dis que finalement, et vous m'avez dit qu'il a commencé, si j'ose dire, sa carrière professionnelle dans la physique. Il était donc physicien de formation. On peut dire que ce qu'il écrit, ce sont un peu des cantats finalement.
Oui, on peut dire ça. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire de sa poésie? Moi, je trouve que c'est une poésie qui est simple à comprendre, mais qu'on n'a jamais fini de comprendre. C'est-à-dire que la résonance de ces poèmes est infinie presque, hein, dans une forme très courte.
Oui, il y a plein de choses derrière, en fait. Il suffit parfois de quelques mots et on peut construire toute une histoire. Et donc, ceux qui n'ont soi-disant pas le courage d'écrire, en fait, il l'écrit, mais simplement, c'est il l'écrit dans l'air. D'ailleurs, c'est l'un de ses collègues poètes, qui est aussi assez connu, a dit que finalement, la poésie d'Akhmetiev, c'est l'air lui-même qui écrit.
Ouais. Moi, je lui ai trouvé un cousinage.
L'air qu'on respire qui écrit. Donc, c'est un peu la poésie, une poésie tellement aérienne, tellement insaisissable, et en même temps assez concrète.
Oui. Je vais citer juste là, évidemment après l'interview, je dirai à nos auditeurs quelques poèmes, mais d'ores et déjà je voudrais citer celui-ci, « Je n'arrive pas à m'endormir parce que je n'arrive pas à me réveiller ». Tout est simple là-dedans, mais il faut se creuser un peu la tête, un peu à la manière des koans zen, des paradoxes donnés aux disciples zen par leur maître, des choses comme ça qui sont pas évidentes à comprendre de prime abord.
Oui, tout à fait. Il y a plein, encore une fois, il y a plein de choses derrière.
Oui.
C'est une poésie qui construit toute une histoire, en quelques mots.
Oui.
Et en fait, j'ai choisi parmi son œuvre les poèmes qui me parlaient le plus.
Oui.
Et je les ai disposés dans un certain ordre qui m'a paru s'imposer.
Oui.
Et quand j'ai montré cet ordre à Akhmetiev, il a dit que c'était tout à fait ça, que c'était vraiment une histoire, donc avec ces quelques poèmes qui se suivent l'un après l'autre.
Ouais. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Alors je précise que vous-même vous êtes finalement russe, enfin en tout cas vous êtes franco-russe, mais votre langue maternelle c'est le russe et vous êtes né à Moscou, hein.
Oui, tout à fait. Je suis née à Moscou et je suis venue en France avec mes parents. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en France. En ce qui concerne Akhmetiev, je le connais parce que j'ai beaucoup fréquenté les cercles poétiques de Moscou.
Oui.
Je le connais par l'une de mes cousines qui est également poète. Et c'est elle qui me l'a fait connaître.
Ouais.
Mais j'avais entendu parler de sa poésie avant.
Ouais.
D'ailleurs, il faut dire qu'il a écrit sous un pseudonyme à l'époque où il était en samizdat. Il écrivait sous le pseudonyme d'Alexeyev. Donc au départ, je n'ai pas fait le rapprochement, mais ensuite j'ai fait le rapprochement. c'est quelqu'un donc qui est très très attachant d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est c'est un personnage aussi. Ouais. Sa femme est également poète, mais elle écrit dans un style un peu différent.
Ouais. Il faut quand même aussi le préciser. C'est très drôle, hein, c'est-à-dire qu'on sourit beaucoup. Si on rit pas beaucoup,
on sourit beaucoup, souvent. Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour et on sent une forme de détachement d'ailleurs par rapport même à l'écriture. On sent que c'est quelqu'un qui répugne à se dire poète. Hein. Le titre finalement, rien qu'une collision de mots, cet extrait de ce poème, n'ayez pas peur, ce n'est rien qu'une collision de mots.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce n'ayez pas peur, il s'adresse aussi à tous les gens qui ne comprennent pas sa poésie. Parce que, à l'époque soviétique, il faut dire que la poésie qui n'était pas en vers rimés, réguliers, faisait peur.
Oui.
Et donc était totalement bannie par les autorités.
Quels sont aujourd'hui ses rapports avec l'autorité russe? Est-ce que c'est quelqu'un
qui... Aujourd'hui, c'est neutre. Bon, il n'y a pas.
Ouais.
Il fait pas de politique,
oui,
hein,
oui.
Vous savez. Maintenant, la situation est assez problématique en Russie, comme vous savez, mais ça n'affecte pas directement la littérature.
D'accord. Il y a une forme de liberté.
La liberté ne touche pas à la littérature.
Ouais, il y a une liberté d'expression.
Si vous écrivez un article, vous dites ce que vous voulez dire, vous pouvez avoir éventuellement des problèmes, mais si vous écrivez de la poésie, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de censure aujourd'hui.
Non, pas en ce qui concerne la littérature.
Oui, c'est une excellente nouvelle.
Il y a des livres qui paraissent, qui disent des choses absolument horribles sur le pouvoir, mais tant qu'il s'agit de littérature, ça va.
Ouais.
Il y a même des écrivains qui sont extrêmement critiques à l'égard du pouvoir, mais dans l'œuvre littéraire, qui viennent officiellement pour le salon du livre. Donc, ouais. La littérature, on n'y touche pas, d'abord parce que les autorités ont compris que finalement la littérature avait tout de même une portée relativement limitée, et que plus on lui accordait de l'importance sur le champ politique, plus elle en a. Et donc si on ne lui accorde pas d'importance sur le champ politique, finalement ça va.
Ouais. Alors il y a une... Comment dire ? Il y a une part de philosophie que je trouve dans cette œuvre, finalement. Sous son apparente modestie, il y a quelque chose, finalement, d'existentiel. Il s'attaque aux grandes questions existentielles, la mort, même la religion, même Dieu, d'ailleurs. C'est un poète croyant. Je citerai tout à l'heure un texte.
Oui. Je crois que oui, ça l'important dans sa biographie, oui.
Est-ce que ça a été difficile à traduire ? Est-ce que c'est une langue difficile à traduire ?
Non, mais il faut faire simple et dans l'immédiateté. Donc, il y a certaines choses qui sont pas évidentes à rendre à cause de la simplicité justement. Donc, il faut trouver un équivalent.
Oui.
C'est toujours pareil. On a toujours l'impression que les choses les plus simples sont les plus faciles à traduire, mais c'est pas toujours le cas.
Ouais. Alors, il faut vous féliciter hein, parce que c'est la première fois qu'on traduit Akhmetiev en français, je crois.
Oui, à ma connaissance, ouais. Oui, il n'a jamais été traduit en français.
Donc vous venez de nous faire découvrir un poète russe que nous ne connaissions pas. Il faut vous remercier là-dessus. Et puis j'aimerais quand même qu'on parle, avant de nous quitter, il nous reste quelques petites minutes, de votre travail à vous, puisque vous êtes poète. Vous avez même publié à la fois en français et en russe. Vous avez publié un recueil en russe en 2000, Les Jours carnassiers. Vous écrivez indifféremment dans les deux langues.
Oui, j'écris tout à fait. J'écris dans les deux langues, en russe et en français. Et je publie plus en russe, d'ailleurs. Mes poèmes sont assez régulièrement publiés en Russie. Il m'arrive aussi d'écrire dans les deux langues le même poème.
Mais il
est un peu différent dans les deux langues.
Alors, parlez-nous de votre poésie. Évidemment, moi, je n'en ai pas d'exemplaires sous les yeux. C'est une poésie, je ne sais pas, qui ressemble à celle d'Akhmetiev. Vous êtes plus lyrique,
Non. Mais j'ai aussi des poèmes de forme très courte.
Ouais.
J'ai des poèmes plus longs, mais ces derniers temps, j'écris des choses assez courtes, c'est vrai. Ouais. Mais bon. C'est vrai que vous savez, quand on traduit, il faut de l'inspiration. Donc en fait, on réussit vraiment à traduire quand on traduit comme on écrit.
Ouais, c'est quand même plus.
Et il faut chaque fois essayer de se mettre un peu dans la peau du poète qu'on traduit, puisque je traduis des poètes très différents. Et donc, quand j'ai traduit Ivan Akhmetiev, j'étais en quelque sorte Ivan Akhmetiev.
C'est mieux quand même d'être poète soi-même pour traduire de la poésie.
Non, mais je pense que ça aide beaucoup quand on est poète de traduire pour traduire la poésie.
Pour traduire la poésie.
Encore une fois, il y a le facteur inspiration qui joue.
Alors par ailleurs, vous êtes aussi, je l'ai dit en début d'émission, dessinatrice, illustratrice, et vous exposez actuellement.
Actuellement, j'ai une exposition, mais pas à Paris. J'ai une exposition qui est à Moret-sur-Loing.
Oui.
Jusqu'au 18 mars, et j'ai aussi une exposition à Moscou en ce moment, à la Maison des Artistes de Moscou.
Ouais.
Les deux expositions sont des expositions de groupe, mais cet été, j'aurai une exposition personnelle en juillet en Normandie, au petit village d'Yport. J'aurai une petite exposition avant, en mois de mai, à Moscou. Et peut-être une exposition plus grande encore à Moscou à la fin de l'année.
Ouais.
Là, ce seront des expositions personnelles. Donc, j'expose beaucoup.
Très bien, bien nous.
Et puis, je fais aussi énormément d'illustrations.
D'illustrations pour les livres, pour les
volumes. Là, j'ai un projet donc qui va. J'ai deux projets qui vont être montrés au Salon du Livre d'illustrations. J'ai fait les illustrations d'un livre que j'ai traduit d'ailleurs de Victor Yerofeyev. Qui paraît aux nouvelles éditions Place, et j'ai également fait des illustrations d'un auteur qui s'appelle Danilov, et il y a un projet où il voyage en train, là il va partir ce soir, et donc il écrit des textes dans le train et je les illustre au fur et à mesure de Paris.
Un long poème itinérant alors.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Alors, je vous pose une dernière question avant qu'on se quitte. Comment se porte la poésie en Russie? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce qu'il y a un lectorat fidèle? Est-ce qu'il y a des bons tirages? Et puis, lors des soirées de poésie, parce qu'il doit y en avoir, il y en a partout, est-ce qu'il y a du monde?
Vous savez, je dois vous dire qu'il y a une espèce de renouveau de la poésie qui est vraiment, vraiment extraordinaire en Russie.
Ah.
Ces derniers temps, je remarque qu'il y a plus de monde aux soirées poétiques. Et il y a un public jeune, ce qui donne vraiment, vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il y a énormément de poètes en Russie, on écrit beaucoup de poésie. La poésie est mieux lotie qu'en France, parce qu'il y a quand même... elle apparaît quand même à la télévision, elle apparaît beaucoup à la radio, et il y a beaucoup de recueils. Les tirages, malheureusement, sont pas bien gros.
Ouais.
De plus en plus, ce sont des tirages réduits. Mais il y a énormément de soirées poétiques.
Ouais.
Si vous allez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il y a des soirées poétiques plusieurs fois par semaine dans différents endroits. Il y a un lieu, par exemple, à Moscou, comme le musée de l'âge d'argent, où il y a des soirées plusieurs fois par semaine avec des poètes qui présentent leur recueil. Et c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, il y avait une soirée d'un poète qui s'appelle Oleg Tchoukontsev, qui fêtait son 80e anniversaire. La salle était archi-comble, il y avait des gens qui se tenaient debout. Donc, vous voyez, il y a quand même un public pour la poésie.
Oui, on se dit que finalement, ça finira par avoir un impact sur l'activité éditoriale, quand même, peut-être sur les tirages. En tout cas, c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il y a autant de monde en Russie pour venir écouter des spectacles de poèmes. Bon, merci beaucoup, Christine Zetounian-Bellous. Je rappelle que c'est Rien qu'une collision de mots, publié aux éditions RS Collection Pau et Psy. On va laisser passer un peu de musique et puis je vais vous lire quelques poèmes extraits de ce très joli livre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Rien qu'une collision de mots d'Ivan Akhmetiev. J'attends d'être sûr de mon bon droit, du droit au texte. Parfois, une minute, on peut l'étirer. Le reste du temps, je suis douloureusement absent. Durant l'attente, je cesse d'attendre. On dirait même que je n'ai plus besoin de ce que j'attends. C'est ainsi que je finis par l'obtenir. Devant des gens qui me sont étrangers, je ne peux parler ni vivre. Tant de fenêtres. Derrière chacune, on voudrait vivre. En écrivant dans le noir, je n'ai pas remarqué que mon stylo n'écrivait plus. Que de visages passés inaperçus à cause des jambes, que de jambes passées inaperçues à cause des livres. Livres, jambes. Je vis dans la perplexité. Pourquoi personne ne m'aime ? Personne ne m'aime, tout le monde manque de temps. Bientôt, on démontrera que la compassion et le dégoût, c'est la même chose. Je possède près d'une centaine de crochets pour m'agripper à la vie, et certains ne se fixent jamais au bon endroit. Un mot nouveau. Je peux l'utiliser ou non, mais je ne saurais plus lui échapper. En moi a élu domicile le bruissement des feuilles. Les sapins artificiels, c'est bien, mais dommage qu'ils ne perdent pas leurs aiguilles. Car nous sommes pareils à l'arbre qui pousse à travers l'asphalte. Son tronc conserve la forme de sa brèche. Il ne nous appartient pas de briser les murs de béton, simplement de grandir. Les pierres existent, les arbres poussent, les animaux vivent. Je pense qu'il y a un Dieu. L'hiver, on ne voit pas la différence entre les arbres morts et les arbres vivants. N'ayez pas peur, ce n'est rien qu'une collision de mots. La pause que je marque avant de vous répondre vous en dira plus. Je suis l'expiration, tu es le souffle. La musique est ma patrie. J'ai soif d'intégrité, mais où la trouver ? La surface de ce poème me paraît parfaitement lisse. Serait-il donc intègre ? La vie est un système d'équations avec de nombreuses inconnues. Les inconnues sont des personnes, les équations sont leurs relations, la solution, c'est la vie. Pour réfléchir, il faut aussi du temps, pas vrai ? Et pas moyen de nourrir deux pensées en même temps. Pour voir le maximum de choses, tu dois te figer sur place et rester là l'hiver, l'été, la nuit, le jour, comme la vieille valise sur le balcon. La prochaine fois, nous coucherons ensemble, toi, moi et la radio.
Ce poème transmet non seulement un état, mais aussi une aspiration. Le seul endroit qui puisse encore faire mal à ce point, c'est l'âme. Mon âme que se disputent la névrose et la dépression. Je suis celui qui, depuis 300 ans, tond le gazon. Vous comprenez, nous avons accumulé tant de saleté que nous avons décidé de vous salir aussi un peu. Je n'arrive pas à m'endormir parce que je n'arrive pas à me réveiller. Le matin, dans le métro, je me sens comme un poisson qu'on a jeté hors de la rivière du sommeil. J'ai rêvé que je m'étais réveillé, que je m'étais levé, que j'avais pris mes affaires et que j'étais parti au travail. C'est à l'état de veille que nous oublions nos rêves. Mais en rêve, nous nous souvenons de tout. Quelle chance ! Tous nos rêves sont sains et saufs. Tel Michel-Ange, en épluchant des patates, j'enlève le superflu. Je compatis à ton malheur de t'être lié à moi, mais je ne saurais t'aider. Pour que les mœurs deviennent victoriennes, les vertus romaines, les âmes chrétiennes, les corps spartiates, les institutions démocratiques et les priorités éthiques. Vous tous n'êtes bons qu'à maintenir tant bien que mal le statu quo. Pour que ça aille mieux, il faut de l'imagination. En parlant des faits, j'exprime des sentiments. En parlant des sentiments, j'exprime des pensées. En parlant des pensées, j'exprime... Et toi qui voulais que ce soit le contraire. Si nous étions des poissons, nous nagerions. Si nous étions des oiseaux, nous volerions. Mais nous sommes humains et nous faisons la grasse matinée. Bien sûr qu'il y a forcément une issue, mais c'est fatigant de toujours la chercher. Tant que le peuple l'ignore, le poète n'existe pas. Quand les gens le connaissent, le poète n'existe plus. Je pense à ce qu'un autre penserait à ma place. Bien sûr que je suis mécontent de moi, mais pas seulement de moi. Un petit morceau de vie ou un bout de discours à encadrer. Monument à Gogol. Petit, malingre, couvert de neige, il a vécu et il est mort. Plus fort que tout, l'attachement aux objets et parmi les objets, principalement aux livres. Le temps s'est obscurci. Il pleut. Je suis assis tout seul parmi mes poèmes. Mes poèmes sont tout simples. J'en ai déjà écrit beaucoup. Le premier venu, quel qu'il soit, vaut mieux que toi, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas toi. Ce que tu penses de moi. De tels individus ne sauraient exister, et je ne suis pas comme ça. Il écrivait de manière obscure dans un but éducatif. Qui a beaucoup attendu, a beaucoup perdu. Des tentatives ont eu lieu qui, pour être demeurées sans suite, sont devenues des événements. Il me semble qu'ici, je me trompe quelque part sur quelque chose d'essentiel, sur tout. Désormais, impossible de comprendre, de deviner, de se représenter comment c'était ce qui n'a jamais existé. Êtes-vous certain que c'est vraiment là ce que vous voulez dire? L'histoire nous jugera, s'il y a encore une histoire. Si j'écris ainsi, c'est parce que je ne sais pas écrire autrement. Si je sais écrire ainsi, c'est parce que je n'écris pas autrement. Pris séparément, mes textes ne représentent rien de particulier. Mon œuvre en son entier est le portrait d'un homme ordinaire. Ce n'est pas ma façon de penser, c'est ma façon d'écrire. Voilà, c'était quelques extraits du livre d'Ivan Akhmetiev, « Rien qu'une collision de mots », traduit par Christine Zetounian-Bellous et publié aux éditions RS Collection Po et Psy. On écoute de la musique et je laisse la place à Claude Verset dont c'est la chronique mensuelle. un superbe morceau de Nguyen Le intitulé Ita Zanagi Isa Tami. Voilà, je vous propose à présent de retrouver Claude Verset, l'un des patrons de la revue des charges, qui nous revient avec sa chronique mensuelle.
Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Christophe. Ce poète est d'abord un œil. Oui, c'est ce que je notais dans mon commentaire de À tout venant, livre par lequel j'abordais tardivement, je le reconnais, l'œuvre déjà étoffée de Jean-Pierre Chambon, dont on trouve les livres chez la plupart des éditeurs qui importent, Gallimard, à Cadex, à Lamourier ou chez Jacques Brémond. L'écorce terrestre, le nouveau livre de Jean-Pierre Chambon, proposé au Castor Astral, permet d'affiner encore davantage la perception de cette poésie subtile, qui, si elle se construit à partir de la sensation visuelle, la déborde en maintes occasions pour voir au-delà des apparences. Non seulement un œil qui voit, mais un œil voyant. Et cette thématique de l'œil, de la vision, est posée d'emblée. Qu'est-ce que voir encore ? Dit la phrase inaugurale de la première suite de poèmes d'un recueil qui en compte 8. Suite qui spécule, c'est un mot de l'auteur, qui spécule sur ces images qui nous viennent quand on ferme les yeux ou que la nuit nous surprend. D'où viennent alors les images ? À quel noyau d'ombre ? À quel trou noir ? À quel tourbillon ont-elles formé leurs contours ? De quelle vue de l'esprit sont-elles la traduction instantanée ? Et que retiennent-elles du visible dans leur vacillement ? Les deux suites suivantes appartiennent à l'ordre du visible. Une barque vide qui dérive, où le tableau s'organise par plans successifs. Puis de brèves formulations tournent autour d'un œil de méduse, c'est le titre. Où, à l'évidence, l'observateur cède la parole à un visionnaire qui entrevoit, là je cite, qui entrevoit dans le miroir flasque que lessive l'écume, l'hydre et la chimère, reflet des vieux démons. Mais on touche au plus haut et au plus secret de l'art de Jean-Pierre Chambon avec Chant de tournesol, embrasement et ténèbres, où l'œil s'exerce durant 24 heures à rendre les états successifs, ombre et lumière, de ce chant d'héliotrope. On pense à Monet peignant la cathédrale de Reims. Description sur le motif ou reconstitution mentale, est-on en droit de se demander ? Ce qui est certain, c'est que les notations saisies dans ces proses ne peuvent être déduites de la seule observation directe, mais relèvent tout autant d'un puissant imaginaire qui projette ses tournesols dans le champ du cosmos, où il rivalise avec le tableau halluciné bien connu de Van Gogh. Je lis une de ces proses. Tout penche, tout semble répondre à l'ordre de la lumière et du vent. L'œil s'applique à supposer dans le grouillement le tracé malhabile des constellations. Ce sont bientôt des frictions de galaxies, des mécaniques célestes au mouvement détraqué, le flottement d'amas lumineux, de grands soleils tisonnant l'espace. Ce sont encore, avant la dérive insensée des images, que les disques grisâtres des tournesols. Au fil des poèmes, Jean-Pierre Chambon s'affirme comme le poète des états transitoires, des interrègnes, comme lui-même le formulera plus tard dans le livre. Par exemple, au cours de l'exploration d'une usine abandonnée, dans une suite intitulée « La poussière, le silence ». Et plus encore, en saisissant les instants extatiques de ce nu sylvestre dont il accompagne les métamorphoses dans la partie centrale, appliquant avec bonheur la consigne d'Arthur Rimbaud, le poète doit se faire voyant. Je lis ce poème par lequel je terminerai ma lecture. Endormi, les yeux mi-clos sur son lit de fortune, dérivant hors du cercle humain, follement jetée aux herbes folles, offerte à la caresse de la lumière et des ombres, enfin confondue à la terre sous le ciel nu. Poème de Jean-Pierre Chambon, extrait de L'écorce terrestre au castor astral, 132 pages pour 12 €, et on trouve ce livre dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.
Nous suivrons votre conseil, cher Claude Verset, et comme un conseil n'arrive jamais seul, je vous propose d'examiner les suggestions littéraires de Cécile Guivarche. C'est maintenant.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc pour ce début d'année, 3 poètes irakiens viennent d'être publiés en France. Alors une femme et 2 hommes. L'un aux éditions Lanskin, traduit de l'arabe par Antoine Joquet, et les 2 autres aux éditions des Lisières, traduit par Swad Labise. Alors c'est 3 livres qui frappent, hein, qui remuent, qui nous arrachent le cœur. Dans chacun d'eux, il y a les mots « guerre »,« sang », »,« cadavre » qui sont très présents à chacune des pages. C'est très loin des fleurs, des roses, du vent qui remue dans les arbres ou du coquillage que l'on met à l'oreille pour entendre la mer. Ici, c'est plutôt des enfants qui sont soit suspendus au sommet de pylônes électriques, des tombes qui sont arrosées par les larmes des mères, ou alors des maisons qui n'ont plus de vitres et des enfants qui ont perdu un bras ou une jambe. La poésie, elle est très brute, elle est violente, et ses écritures, elles évoluent vraiment au cœur de la guerre. Il est vraiment difficile d'écrire un monde beau, impossible de le faire, vraiment. Et surtout, il y a une urgence qui anime ces 3 poètes. C'est bien de rendre compte de cette violence, de l'absurdité de la guerre. Et c'est de dire aussi l'indicible. Ils appartiennent, au moins pour 2 d'entre eux, à un collectif de poètes qui s'appelle la Milice de la Culture. Et ce collectif dénonce l'horreur et les pratiques de Daesh par le biais de performances. Ils vont comme ça sur les traces de l'EI, ils se mettent en uniforme de persécuteurs ou de persécutés et dénoncent vraiment ces absurdités. Alors ce sont vraiment 3 auteurs essentiels qui sont révélés ici en France grâce aux traducteurs et qui nous permettent ni de fermer les yeux ni de rester insensibles à ces conflits qui sont perpétuels dans un pays qui pourrait nous paraître loin, mais qui est quand même tout près. Donc ces 3 auteurs, qui sont-ils? Alors la femme, c'est Aya Mansour, et ensuite Ali Tareb et Mazim Mamouri. Alors Aya Mansour, elle a écrit « Seule, elle chante », donc qui est paru aux éditions des Lisières, traduit par Swad Labise. Elle est née en 1992, donc elle écrit vraiment depuis sa naissance. Elle est dans un pays en guerre, donc elle écrit un pays où les morts n'ont pas eu l'occasion de rester dans le vent, comme elle dit. Elle écrit pour les mères qui arrosent leurs petits de leurs larmes, et dans son écriture, elle écrit les images qui sont, normalement, elles sont habituellement belles, mais ces images qui, pour nous, en France, pourraient être belles, ici, elles sont défigurées par la guerre. Cette poésie, elle n'est pas destinée du tout à sublimer la terre, mais bien à rendre compte du désastre. Elle parle de boucherie humaine, de la mort qui s'étale sur les trottoirs. Son écriture, elle est directe, parce qu'il y a une urgence de dire, sans taire. Et aussi, c'est une poésie qui lance des flèches. Certains poèmes sont très courts, ce sont presque des haïkus, et d'autres sont un petit peu plus longs et s'étalent vraiment sur la page. Elle aurait peut-être aimé goûter au jour esquis, comme elle le dit à un moment dans un de ses poèmes, mais il y a sans cesse le hurlement des avions, les bruits des bombardements et des balles. Les anges dans le livre sont présents, mais ils sont épuisés et impuissants face à la mort. Donc vraiment, c'est un livre très dur par des poèmes très courts. Voici par exemple un petit extrait, donc « Égaré ». Dans les rues de notre ville, les chemises marchent seules, à la recherche de leur propriétaire, pendues, nues, dans l'armoire du cimetière. Donc, aux mêmes éditions des Lisières est paru le livre d'Ali Tareb, « Un homme avec une mouche dans la bouche ». Donc, cette poésie, elle est un peu plus imagée que celle d'Aya Mansour. Elle paraît d'abord plus douce, mais elle rencontre quand même de la même manière de la violence de la vie, enfin, plutôt celle de la mort. Lui, il ne compte pas les vers ni les syllabes. Par contre, il se sert de ses doigts pour compter ses amis morts. Il utilise des images assez inattendues pour nous, lecteurs français, comme par exemple son visage qui tombe dans la machine à laver. l'idée du sang est très présente, pas seulement celui des blessés et des morts, mais aussi celui de la filiation, avec des racines très présentes, avec une image très forte, les racines de la maison. Donc, c'est très fort, surtout quand on connaît donc, les possibilités de l'exil que peuvent connaître les Irakiens. Cette poésie semble plus douce, mais n'en est pas moins que les personnages qui sont au fil des poèmes ont des membres en moins et qu'on entend les explosions des bombes. Il est très difficile d'être poète en Irak, car chaque jour, la poésie est dans la mort, dans les bombes et l'horreur. Et Ali Tareb écrit aussi « J'attire l'attention à travers mes textes sur le lieu du crime, sur le sang. J'essaye constamment d'ouvrir notre mort quotidienne avec toutes ses facettes sur les limites du mot, le mot qui passe, non pas comme une rose, mais comme une balle. » Et je vais conclure par ce poème d'Ali Tareb. La mort nous menace chaque jour, et jusqu'ici nous n'avons rien commencé. Ainsi sommes-nous depuis l'enfance. Pas une fois je n'ai vu entre tes mains autre chose qu'une poupée sans jambes. Tu m'auras vu tant de fois, tirant des pierres sur mon cerf-volant, pendu au câble électrique. J'aurais tant aimé dessiner des cœurs avec la buée quand tu étais face à moi à la maison. Une fenêtre nous séparait, mais nos fenêtres n'avaient plus de vitres. Voilà, donc pour deux des trois poètes édités aux éditions de Lisière. Pour une prochaine fois, je vous parlerai peut-être du troisième poète, Mazim Mamouri, qui a écrit donc « Cadavre dans une maison obscure » paru aux éditions Lanskin. Je vous remercie, à très bientôt.
Nous arrivons presque au terme de cette émission. Comme chaque mois, je vous propose d'aller dans les Alpes-Maritimes à Mouhans-Sartoux où nous attend le poète Patrick Jockel avec une moisson de trouvailles. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Prochain rendez-vous sur la route inconnue dans 15 jours.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de deux livres. Le premier est édité aux éditions Gros Texte. C'est le dernier livre de Jacqueline Held et son titre « J'ai besoin des voix humaines ». Un livre donc qui vient juste d'être publié à la fin de l'année 2017. Et dans ce livre, on retrouve une Jacqueline Held avec sa poésie engagée, des poèmes réactions face à l'actualité, à son inhumanité, une voix, des poèmes pour dire l'inacceptable, l'indignation, et pour appeler à un destin plus grand pour l'humain. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est dit. C'est déjà une différence. Si aujourd'hui, comme c'est arrivé déjà dans le passé, les poètes, les artistes, les journalistes se taisent, qui pourra savoir ce qui se passe dans l'ombre, au loin, qui pourra connaître la détresse du monde? Grâce à ces petites voix, ces murmures, parfois on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Certains agissent en direct, d'autres de plus loin. L'essentiel est de défendre chacun à sa place et avec ses moyens cette idée que l'homme est plus grand que lui-même. Alors découvrons ce petit livre de poèmes de Jacqueline Held, miroir de nos journaux. Et on peut repenser à d'autres titres de Jacqueline sur aux éditions Gros Texte, dans la même veine d'écriture. Il y avait les mots sauvages pour les sons. Il y avait les mots sauvages d'un temps sauvage aussi. Et donc dans cette lignée-là, nous avons « J'ai besoin de voix humaine ». Avec la prodigalité du vent, cherche et donne à tous et à chacun des mots partagés, partageables, qu'on mange au petit déjeuner, qu'on croque au sel et au beurre, pluie dans le regard des hommes, rire et sourire, et dans l'air sucré sous le tilleul, envers et contre tout, l'espoir quand même. Et un deuxième poème. Un ami me parle du monde et de l'homme, de tout et de rien, d'incroyables oiseaux migrateurs, grues de Mandchourie dans la zone la plus militarisée du monde. Me parle d'enfants errant par les routes et d'aïeuls, parents, enfants de migrants, trois générations ruinées, sacrifiées. Me parle d'humains dans des containers, d'un figuier tranquille dans la vallée de la Roya. Me parle de vie, me parle de mort, me parle du bien, me parle du mal, me parle de fugitifs recueillis en jeep, hébergés, nourris avant de pouvoir passer la frontière, me parle d'injustes au tribunal, juste parmi tant d'autres, accusés d'avoir aidé, soulagé, d'avoir protégé et d'avoir aimé. Voilà, c'est « J'ai besoin des voix humaines » de Jacqueline Held aux éditions Gros Texte. Et puis je vous ai déjà parlé des nouvelles éditions Fatrasi, sont d'édition qui est née en 2017, un petit extrait d'un des livres paru en 2017, Le Contredit des villes, de Kylian Provost, donc Fatrasi édition. C'est un petit recueil de poèmes en sept stations, avec pour héros un Orphée moderne qui, dans les gueules de la ville, cherche son Eurydice. Des poèmes un peu comme un récit qu'on suivrait en sautant de cailloux en rocher à travers le lit d'un torrent, avec de multiples surprises, des trésors de langage, des paysages urbains comme rarement croisés en poésie, et ça c'est vraiment intéressant. Un livre qu'on pose une fois lu en se disant « Tiens, je vais le relire plus lentement dans un moment, peut-être station après station. » Un livre qui irait bien sur scène avec plusieurs voix, un décor de photos éventuellement projeté. Alors un tout petit extrait de la station 1. Toutes les fenêtres éclairées sur la face d'un immeuble, toutes se croient nécessaires faisceaux de la lumière éternelle. Le voyageur, dans son train qui défile à travers l'intestin des banlieues, ne les remarque pas. Et pourtant, elles toutes se savent le reflet de l'unique lumière. Et dans la station 3, on trouve un texte plus en prose, plus horizontal. Il faut beaucoup s'appliquer pour qu'aucune tête, plus aucune, dans l'intestin des métropoles où d'immenses étrons de fer transportent des cœurs battants, il faut beaucoup s'appliquer et s'appliquer encore pour qu'aucune de ces têtes au visage tiré ne vous paraisse humaine. Voilà, un auteur à découvrir, Kylian Provost, Le Contredit des villes, c'est chez Fatrasi Édition. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.
If I could, yes I would.